Les podcasts du Collège de France, biologie.
Bien, nous allons reprendre. Lors de la dernière leçon, j'avais rappelé ce que j'entends par figuration, à savoir cette activité universelle, proprement humaine, de production, de façonnage, d'ornementation, d'aménagement ou de mise en situation d'un objet ou d'un ensemble d'objets matériels, envie d'en faire une image fonctionnant comme un signe à la fois iconique et indiciel. J'avais expliqué pourquoi la fonction indicielle est aussi importante que la fonction iconique, que la fonction mimétique, puisque c'est cette première fonction, la fonction indicielle, qui fait que l'image paraît dotée d'une autonomie et d'une capacité à agir, ce que j'ai appelé une agence, traduisant ainsi le mot « agency » en anglais, lequel explique en grande partie les raisons de la fascination que cette image est susceptible d'exercer. Pourtant, le fait que l'image, en tant que signe indiciel, ne puisse pas être distinguée d'autres sortes d'artefacts par ses propriétés symboliques sui generis, c'est-à-dire le fait qu'elle n'appartient pas à une classe ontologique particulière, ne signifie pas pour autant qu'elle ne puisse pas rendre visibles des propriétés ontologiques plus générales. Donc, s'il y a une ontologie des images, pour reprendre le titre que j'ai donné à ce cours, c'est que certaines images peuvent révéler des systèmes de qualité prêtés aux objets, autrement dit, des ontologies, c'est le sens que je donne à ontologie, des systèmes de qualité que l'on décèle dans les objets du monde, la figuration consistant, au premier chef, en ce mécanisme de dévoilement et d'instauration ou d'instanciation même de l'armature invisible du réel. J'ai ensuite, au cours de cette dernière leçon, rappelé les caractéristiques des quatre principaux systèmes des quatre principaux systèmes de qualité dont j'ai postulé l'existence, à savoir l'animisme, le naturalisme, le totémisme et l'analogisme. Et j'ai commencé à spécifier pour les deux premiers, l'animisme et le naturalisme, la façon dont ils s'incorporent dans des images et les contrastes qu'ils présentent de ce point de vue. Il restait donc à définir les propriétés figuratives des deux autres ontologies, le totémisme et l'analogisme, et c'est donc par quoi je vais commencer la leçon d'aujourd'hui. Le monde du totémisme est composé d'un grand nombre de classes d'êtres, de classes d'entités, regroupant des humains et diverses sortes de non-humains, les membres de chaque classe partageant des ensembles différents de qualités physiques et morales que le totem est réputé incarner, incorporer, figurer au plus haut point. Dans les sociétés aborigènes d'Australie, où cette ontologie est la mieux attestée, le noyau de qualité caractérisant la classe totémique est réputé issu d'un prototype originaire, primordial, traditionnellement appelé être du rêve. Les images totémiques révèlent donc l'identité profonde des humains et des non-humains d'une classe totémique. Identité interne, d'abord, parce que humains et non-humains incorporent une même essence, un même principe dont la source est localisée et dont le nom synthétise les propriétés qu'ils possèdent en commun, et une identité physique aussi, dans la mesure où humains et non-humains sont formés des mêmes substances, sont organisés selon une même structure et possèdent, de ce fait, le même genre de tempérament et de disposition. Les objectifs figuratifs du totémisme australien sont mis en œuvre au moyen de plusieurs stratégies, dont les deux principales sont la figuration de l'ordre totémique au moyen de l'image de ceux qui ont engendré cet ordre, ce que j'appellerais l'ordre incorporé, et d'autre part, la figuration de l'ordre totémique au moyen de l'image des traces ordonnatrices que ceux qui ont instauré cet ordre ont laissées, et j'appelle ça l'ordre dynamique. Je serai assez bref à ce propos, pour synthétiser les caractéristiques du totémisme, car je consacrerai cette année plusieurs leçons à la figuration totémique. Je commencerai donc par ce que j'ai appelé l'ordre incorporé. Cette première forme de figuration totémique est illustrée par les peintures selon le style dit rayon X, notamment, ce sont celles qui l'expriment le mieux en tout cas, ce sont des silhouettes animales ou humaines, inertes, à l'intérieur desquelles sont représentées avec une grande exactitude squelettes et organes. Et elles proviennent de la partie occidentale de la terre d'Arnhem, donc dans le nord-est de l'Australie. La permanence des identités de structure entre humains et non-humains est ainsi mise en évidence au moyen, ici, du langage figuratif de la physicalité. Et ce langage figuratif de la physicalité, il est caractérisé par trois traits absolument récurrents, qui sont d'abord la netteté de l'organisation morphologique et des divisions internes qui donnent à voir la permanence de la relation métonymique d'identité entre les humains et les non-humains. On en a ici un bon exemple, qui est d'autant plus parlant que l'artiste a dépeint le kangourou, l'être du rêve et l'humain à peu près à la même dimension et dans la même position, de façon à souligner l'identité de structure interne entre le kangourou antilope et l'humain. Deuxième caractéristique de cette, ce que j'appelle l'ordre incorporé, qui est tout particulièrement notable chez les Kunwishku de la terre d'Arnhem, c'est l'englobement dans la figure du totem de ses attributs et de ses créations présentées comme des organes, lesquels donnent à voir non pas un être particulier situé dans le monde, mais des qualités du monde qui sont enveloppées dans un être particulier. On a ça avec l'image de Luma Luma. Dans certains de ses organes, ce qui semble être les poumons et les testicules, on a en réalité des objets rituels que Luma Luma a engendrés par une sorte de processus de parthogénèse issu de son propre corps. Donc. Et troisième caractéristique de ce que j'appelle l'ordre incorporé dans le totémisme, c'est l'immobilité figé de l'être du rêve représenté, lequel donne à voir le caractère inaltérable des divisions qu'il a instituées, de sorte que le mouvement est ici dans le geste figuratif et non dans la figure. On en a ici un exemple avec deux ancêtres totémiques, Brolga, ce sont des espèces de grues, et deux esprits mimiques qui ne sont pas des êtres du rêve, qui tournent autour, les deux êtres du rêve sont figurés de telle manière que l'on aperçoive leur organisation interne, laquelle correspond aussi à la découpe du gibier et à la distribution des pièces de viande entre les différents parents. Donc ça, c'est premier dispositif, l'ordre incorporé, la figuration de l'ordre dans le corps même des êtres du rêve. Deuxième dispositif, c'est ce que j'ai appelé l'ordre dynamique. C'est une autre manière de rendre présents les êtres du rêve, qui est sans doute la plus connue du public, étant donné la diffusion des tableaux au moyen desquels ceci est représenté, et qui consiste à figurer les actions des êtres du rêve sous la forme des traces qu'ils ont laissées, non plus en les figurant eux-mêmes, mais en figurant l'empreinte qu'ils ont laissée, notamment dans le paysage. C'est une manière de faire qui est caractéristique des peintures jadis sur sable et aujourd'hui sur toile des aborigènes du désert central. Il s'agit d'une série de graphèmes dont les enchaînements illustrent la narration de récits qui relatent les opérations génératives des êtres du rêve, à la fois comme un mouvement sur une surface et comme les effets incorporés de ces opérations dans les traits du relief. Donc ici, au lieu de figurer les agents de la génération sans leurs traces, comme on le fait dans la Terre d'Arnhem, pour montrer que le monde ne fait plus qu'un avec le corps inerte de ceux qui l'ont ordonné, ici, dans le cas du désert central, les aborigènes figurent les traces sans les agents, pour bien montrer que ces agents ayant disparu de cette scène instauratrice, leur action instituante est terminée. J'en donne deux très brefs exemples. Ça, c'est sous la forme des dessins sur le sable, au moyen desquels on ponctue des narrations et qui sont destinées à figurer des opérations, des itinéraires selon un langage codé. Et évidemment, la forme la plus classique maintenant et la plus connue, c'est sous les peintures, sous la forme des peintures acryliques, où on retrouve, vous voyez ici les différentes... Les empreintes hein, qui indiquent un mouvement autour d'un campement, etc. Donc, je passe assez brièvement sur cela, puisque je vais y revenir très longuement dans les prochaines leçons. Dernier mode de figuration, l'analogisme. Avoir sur le monde un point de vue analogiste, c'est percevoir tous ses occupants, y compris leurs éléments constitutifs, comme différents les uns des autres, au physique comme au moral. Évidemment, un tel monde, dans lequel chaque entité forme un spécimen unique, deviendrait impossible à habiter, impossible à penser, si l'on ne s'efforçait de trouver des correspondances stables entre ses composantes humaines et non humaines, comme entre les parties dont elles sont faites. Par exemple, selon les qualités qu'on leur impute, certaines choses seront associées au chaud et d'autres au froid, certaines au jour et d'autres à la nuit, certaines au sec, d'autres à l'humide. L'objectif figuratif de la pensée analogique, c'est donc de rendre présents des réseaux de correspondance entre des éléments discontinus, ce qui suppose de multiplier les composantes de l'image et de mettre en évidence leurs relations. Et quelle que soit l'exactitude de la représentation des détails à laquelle la figuration analogique peut parvenir, elle ne vise pas tant à imiter avec vraisemblance un prototype naturel, objectivement donné, qu'à restituer la trame des affinités au sein de laquelle ce prototype prend un sens et peut exercer une action. Alors, il y a plusieurs moyens de parvenir à ce résultat. Le premier, c'est de figurer ce qu'on pourrait appeler des êtres composites. La figure classique de l'analogisme, c'est la chimère au sens propre, c'est-à-dire c'est un être composé d'attributs appartenant à des espèces différentes, mais présentant néanmoins une certaine cohérence sur le plan anatomique. Donc la chimère, c'est un hybride dont les éléments constitutifs relèvent de registres hétérogènes, mais qui peuvent se rencontrer de façon conjoncturelle dans un être tout à fait singulier. Pour que cet agrégat de qualités soit plausible, il faut que chacune de ces qualités soit identifiable dans un élément anatomique. Par exemple, dans l'héraldique européenne, le griffon combine un corps de lion, symbole de vaillance, une tête d'aigle, symbole de domination, de pouvoir victorieux. Il faut aussi que la combinaison, c'est un élément très important, il faut que la combinaison de ces éléments parvienne à donner l'illusion de la vie sous la forme d'un organisme capable d'action autonome. Enfin, et même si on leur prête souvent une existence réelle, les êtres composites sont dans la plupart des cas des illustrations de récits qui décrivent leurs qualités, les circonstances de leur genèse ou les actions qu'ils accomplissent. Ils sont donc tout à fait indissociables du dispositif narratif par lequel ils sont institués. Donc vous en avez ici un bon exemple avec Quetzalcoatl, divinité mexica, serpent à plumes, hein, qui combine donc des caractéristiques non seulement animales, mais aussi humanoïdes et divines. Alors, on a discuté pour savoir d'ailleurs si c'était une pièce originale. Notre collègue archéologue Baudez a discuté de la possibilité de savoir s'il il s'agissait pas d'une création du XIXe siècle. Néanmoins, on a d'autres figurations de Quetzalcoatl, j'aurai l'occasion d'y revenir, qui ne sont pas tellement, tellement différentes de celles-ci, beaucoup moins élaborées, mais qui reprennent ces mêmes éléments composites. Deuxième exemple que je dois à Dimitri Karadimas, qui m'a attiré mon attention là-dessus, c'est un commentaire de l'Apocalypse de Jean par Béatus, et on voit, c'est donc le fléau des sauterelles, et les sauterelles sont représentées avec un corps de cheval ailé, à tête de femme, avec une queue de scorpion, donc avec des éléments tout à fait composites. Deuxième moyen d'aboutir aux objectifs figuratifs de l'analogisme, c'est de montrer, de rendre visible la relation entre le macrocosme et le microcosme. Une caractéristique de la pensée analogiste est de décliner de façon obsessive cette thématique des correspondances entre le macrocosme, le monde, et le microcosme, la personne humaine, vue comme un monde en miniature. C'est une façon, finalement, efficace de fixer dans un être privilégié, à savoir l'humain, un foyer plus dense, plus condensé, de signification qui permet de limiter la prolifération des signes à l'échelle de l'humanité, à l'échelle de l'humain, et d'empêcher la réverbération illimitée de ces signes dans un monde clos. Quand les signes pullulent et que de leur déchiffrement correct dépendent le bonheur ou le malheur, la santé ou la maladie, la fortune ou l'infortune, il est rassurant de se dire qu'il existe dans le corps et dans la nature de l'humain en général un gabarit d'interprétation permettant de se repérer dans le parcours infini des similitudes. La forme la plus commune de correspondance entre l'homme et le monde, ben c'est la transposition directe, soit par superposition, on en a ici un exemple européen, tiré des traits riches d'heures du duc de Berry, le corps zodiacal, soit par une liaison schématique directe, c'est-à-dire que telle partie du corps est liée à telle partie du cosmos. Là, c'est d'une toute autre région du monde que ça provient, le corps subtil, dans lequel le corps est relié à toutes sortes de déterminations qui lui sont extérieures. Mais ça peut être aussi une liaison aléatoire, dans le cas des, j'en ai pas ici, mais dans le cas des plateaux ou des tableaux de divination. C'est-à-dire que la liaison est possible, mais simplement c'est l'aléa qui va déterminer la liaison. Soit enfin par des analogies plus subtiles entre les qualités humaines et les propriétés du cosmos, telles que les poursuivent la peinture chinoise de paysage, et je reviendrai sur ce point un peu plus tard. Une autre forme de correspondance est celle qu'introduit la contiguïté des éléments dans les cosmogrammes, soit qu'ils sont référés à une figure centrale rayonnante, c'est le cas de ce tanka tibétain, soit qu'ils soient référés à une expérience individuelle. Je reviendrai plus longuement sur toutes ces images. Le moment venu, c'est un cosmogramme Witchol. Troisième façon de figurer dans une modalité analogique, ça consiste à figurer directement des réseaux. Alors comment est-ce qu'on peut figurer des réseaux ? Eh bien, finalement, il s'agit de rendre visibles des discontinuités faibles, organisées et liées les unes aux autres, et cela implique que chaque élément composant le réseau soit perçu comme la partie d'un tout. Donc c'est l'ensemble, le réseau, c'est l'ensemble des objets entre lesquels une affinité existe, et c'est cet ensemble qui est donné à voir, et non chaque élément pris isolément. Alors ce maillage, on peut l'obtenir de diverses manières. D'abord, par l'inscription du réseau des objets dans un espace qui va délimiter leur agrégat, soit que ces objets soient complètement hétéroclites. Je prends un exemple ici qui est une tunique de protection d'un chasseur mandé. Chacun des objets est différent, mais c'est l'ensemble des objets entrant en correspondance les uns avec les autres qui assure la protection du chasseur. Soit qu'ils entretiennent une relation, on pourrait dire, comme autant d'acteurs contribuant à une activité commune. C'est le cas de cette messa, c'est une sorte d'autel chamanique andin. On trouve exactement les mêmes genres de dispositifs en Amérique centrale et au sud de l'Amérique du Nord, c'est-à-dire au Mexique. Chaque pièce de ce dispositif joue un rôle, et c'est dans leur combinaison, dans la conjonction des actions qu'ils exercent ensemble, qu'une action peut être menée à bien. Le réseau peut aussi se donner à voir au moyen d'une accumulation non exhaustive d'objets de même nature qui expriment des qualités différentes du monde. Alors un bon exemple, c'est finalement les poupées Kachina. Les poupées Kachina, ce sont des poupées qui figurent des esprits et qui... ce ne sont pas des incorporations d'esprit, ce sont c'est un dispositif propédeutique, c'est-à-dire qu'au moyen de ces poupées, les enfants apprennent les différents esprits qui constituent autant chacun d'entre eux que synthétisant une qualité du monde. Il y en a à peu près 400, et chacun d'entre eux a des qualités tout à fait particulières et nommées à... aussi d'ailleurs des rituels qui lui correspondent, des masques qui sont utilisés dans les rituels, de sorte que si on faisait la... et c'est possible éventuellement, si on réunissait toutes les poupées Kachina, on aurait toutes les qualités du monde réunies dans ces... enfin, du monde au pire en tout cas, réunies dans ces objets. Quatrième dispositif pour figurer les correspondances analogiques... c'est la répétition métonymique d'une image à différents niveaux d'enchâssement. Il peut s'agir, par exemple, de la réplique dans une même image d'un motif, d'une structure, ou de la totalité de l'image à des échelles différentes, engendrant ainsi un objet fractal du type cristaux de neige. Le meilleur exemple de cela, évidemment, ce sont... les motifs Witchall, puisque, comme vous le voyez, la structure en quinconce qui est caractéristique de ces motifs est reproduite à différentes échelles. Une telle disposition a pour conséquence d'attirer l'attention sur la structure du réseau qui caractérise l'ensemble en la rendant ostensible par la répétition en abîme. Mais elle a aussi comme caractéristique de mettre en évidence qu'une singularité en apparence autonome est en réalité constituée par des réseaux de relations disséminés à sa surface. Un bon exemple, c'est cette divinité de l'île de Rurutu en Polynésie. Donc vous voyez qu'elle porte sur son corps des figurations miniatures d'elle-même. Et en outre, dans son dos, je l'avais déjà signalé, je crois, dans une leçon précédente, il y a une cavité au sein de laquelle étaient présentes, avant qu'on les détruise, avant que les missionnaires les détruisent, des figures miniatures représentant cette même divinité. Un effet identique peut être obtenu par un moyen légèrement différent, à savoir la reprise d'un même motif enchâssé, parfois à plusieurs reprises, dans des images différentes, mais qui sont destinés à être vus comme des variations les unes des autres. Dans ce cas, la répétition et l'accumulation, d'une certaine façon, en abolissant l'idée de hasard, promeuvent par contraste une impression de régularité et d'ordre interconnecté, bien propre à suggérer l'idée d'un réseau de relations. Je prends ici une série d'exemples. On a ici la photographie d'un saint soufi du Sénégal, qui est très vénéré dans les confréries mourides. Voilà une première... Alors ça, c'est l'original, hein, c'est tout ce dont on dispose comme figuration de ce personnage. On a une première variation sous la forme d'un calligramme. Le visage se confond avec les mots « Il n'y a de Dieu que Dieu et Mohammed et son prophète ». Deuxième variation, c'est une peinture murale. C'est entre un graffiti et une peinture murale, hein, où on reconnaît non seulement la figure du saint, mais également différentes variations de cette même figure à différentes échelles. Voilà, bon, j'en ai. Il y en a de très nombreuses, on en recense notamment avec ces peintures murales plus d'une dizaine de variations. Donc voilà, j'ai fini ce bref rappel que j'avais débuté lors de la dernière leçon des caractères distinctifs de chacun des modes de figuration, et je voudrais revenir un moment sur l'idée que les images, indépendamment des capacités de symbolisation qu'on peut leur prêter, peuvent être vues et traitées comme des agents attentionnels, dans la mesure où l'on identifie en elles une aptitude à agir intentionnellement du même type que celle qui est reconnue aux humains. J'ai rappelé lors de la dernière leçon que cette approche praxéologique n'est pas nouvelle, mais qu'elle a connu un retentissement tout particulier grâce au livre d'Alfred Gell, Art and Agency, notamment parce que Gell fait quelque chose qu'on n'avait pas véritablement fait auparavant, c'est-à-dire qu'il se penche sur les mécanismes cognitifs qui permettent d'inférer une agence dans une image. Et c'est à ce point particulier que je voudrais consacrer la deuxième partie de la leçon d'aujourd'hui. À vrai dire, la première partie, je pensais la faire, mais je n'ai pas eu le temps lors de la première leçon. Donc, pour Alfred Gell, un objet d'art est un indice, au sens de Peirce, un indice qui permet une opération cognitive d'un genre particulier qu'il appelle une abduction d'agence. Une abduction, c'est une variété d'inférences conjecturales fondée sur l'aporie logique consistant à affirmer les prémices à partir des conséquences, les conséquences étant ici l'indice qui permet de remonter à l'objet dénoté. Autrement dit, un objet d'art, c'est l'expression qu'emploie Alfred Gell, est un indice de la présence d'une agence socialement définie, parce que cet objet d'art permet à la fois d'inférer les intentionnalités qui ont accompagné sa fabrication et permet de le voir lui-même, cet objet, à la suite de ce processus inférentiel, comme un agent intentionnel doté d'une efficacité propre dans le domaine social. Donc l'agence sociale n'est pas réduite ici à la sphère d'action des humains, mais elle renvoie au fait qu'une intentionnalité agissante peut être attribuée à n'importe quelle entité non humaine, pourvu que l'on puisse inférer en elle, par abduction, une capacité à agir intentionnellement analogue à celle des humains. Alors, l'un de mes points de désaccord avec Gell réside dans l'équivoque qu'introduit la caractérisation de l'objet dont il s'occupe comme œuvre d'art. Car considérer l'œuvre d'art comme un agent délégué ayant des effets sur le monde ne suffit pas à la définir dans la mesure où cette définition s'applique à de nombreux objets dont il est difficile d'affirmer qu'ils ont un rapport, même indirect, avec l'art. Par exemple, c'est un exemple que j'ai l'habitude de prendre, une victime sacrificielle, eh bien, pour reprendre la définition de Gell, un objet opérant une médiation d'agence sociale, et c'est même cette formule de Gell, c'est la formule par laquelle il définit l'œuvre d'art. En effet, le sacrifice, eh bien, il sert à relier deux termes entre lesquels il n'existe au départ aucun lien, le but de l'opération sacrificielle étant, pour reprendre l'excellente définition qu'en donne Lévi-Strauss dans La pensée sauvage, je le cite, le but étant d'instaurer un rapport de contiguïté au moyen d'une série d'identifications successives qui peuvent se faire dans les deux sens, soit du sacrifiant au sacrificateur, du sacrificateur à la victime, de la victime sacralisée à la divinité, soit dans l'ordre inverse. Dans cet enchaînement de médiation, la victime est investie, évidemment, d'une agence éminente, mais qui ne lui est pas ontologiquement inhérente. Un bœuf, c'est un bœuf. Et c'est seulement lorsqu'il devient une victime sacrificielle qu'il devient porteur d'agence sociale, qu'il devient en particulier un instrument de médiation. Et pourtant, évidemment, il n'est pas un objet d'art, même s'il peut être orné pour le sacrifice. De même, une pièce de monnaie, eh bien, là encore, pour reprendre la définition de Gell de l'objet d'art, un objet opérant une médiation d'agence sociale, puisque, outre sa fonction d'étalon et de réserve de valeur, la pièce de monnaie est un moyen d'échange, elle est donc investie d'une intentionnalité sociale déléguée qui lui donne précisément sa valeur et qui garantit son efficacité comme relais matériel entre les désirs et les besoins des personnes humaines. Et pourtant, la pièce de monnaie n'est pas un objet d'art dans sa fonction première, même si elle peut le devenir par destination pour des collectionneurs, pour des numismates. Or, à cette question de savoir ce qui permet de discriminer au sein des objets à qui l'on impute une intentionnalité sociale entre ceux qui relèvent de l'art et les autres, Gell n'apporte pas véritablement de réponse satisfaisante. Selon lui, en effet, l'anthropologie de l'art doit s'occuper, je le cite, des relations sociales au voisinage des objets médiatisant une agence sociale. Des relations sociales au voisinage des objets médiatisant une agence sociale. Lesquels objets peuvent être tout aussi bien des animaux ou des plantes, ou bien sûr des humains, du moment qu'ils sont traités comme des agents sociaux, directs ou délégués. Pourtant, la victime sacrificielle ou la pièce de monnaie que j'évoquais à l'instant sont aussi dans ce cas. Et Gell ne prétend pas que que l'anthropologie de l'art doive s'occuper de ce genre d'objet. Comment donc distinguer les relations sociales, pour reprendre la formule de Gell, les relations sociales au voisinage des objets médiatisant une agence sociale qui aurait une dimension artistique de celles qui n'en auraient pas? Bien, la réponse de Gell, c'est que les situations ayant une qualité artistique, art-like situations, peuvent être discriminées comme étant celles dans lesquelles l'indice matériel, c'est-à-dire l'objet d'art au sens physique, permet une abduction d'agence, précisément. Le problème, c'est à nouveau qu'il y a de très nombreuses entités non humaines à propos desquelles on peut inférer par abduction une capacité à agir intentionnellement, conçue par analogie avec celle des humains, et qu'il est impossible de dire de la plupart d'entre elles qu'elles ont une qualité artistique. En Amazonie, dans l'ère subarctique, ou en Sibérie, par exemple, la plupart des animaux sont dans ce cas, puisqu'on leur prête une intentionnalité et une vie sociale du même type que celle des humains, et pourtant, ils ne sont pas traités comme des objets d'art. Autrement dit, l'abduction d'agence est un mécanisme très intéressant pour rendre compte de la constitution de ce que j'appelle les ontologies animiques, mais ce n'est pas en soi un mécanisme suffisant pour spécifier un objet d'art. Et de fait, pour qu'il y ait véritablement une qualité artistique reconnue au produit de la relation d'abduction, il faut encore, dit Gell, que, je le cite, « l'indice soit lui-même vu comme le résultat et ou l'instrument d'une agence sociale ». Fort bien, mais on peut très bien appliquer cette définition aux deux contre-exemples, la victime sacrificielle et la pièce de monnaie, que j'ai pris précédemment. Une pièce de monnaie et une victime sacrificielle peuvent aussi être vues comme le résultat et ou l'instrument d'une agence sociale, et cela n'en fait pas pour autant des objets d'art. Donc, je retiens de l'argumentation de Gell que la meilleure manière d'aborder une classe d'objets qu'il appelle quant à lui des objets d'art est de les traiter comme des agents dotés d'une intentionnalité déléguée ayant une efficacité sur le monde, mais je m'interdis, je le rappelle puisque je l'avais déjà dit, je m'interdis la référence à l'art que Gell a voulu maintenir. Il a voulu maintenir essentiellement parce que son entreprise se définissait au départ comme une critique et un dépassement de l'anthropologie de l'art. Donc le terme même subsistait dans son propos. Et je préfère lui substituer à ce terme d'art l'opération de figuration ou de mise en image, ainsi que je m'en suis expliqué lors de la dernière leçon. Cela ne résout pas pour autant la question des mécanismes cognitifs permettant l'abduction d'agence, c'est-à-dire l'attribution d'une autonomie intentionnelle à des images perçues comme des agents. Dans Art and Agency, Gell adopte à ce propos un point de vue un peu paradoxal, puisqu'il s'appuie sur une théorie internaliste dans sa conception de l'intentionnalité des œuvres d'art, tandis qu'il s'adosse à une théorie externaliste pour expliquer certains effets de leur agence comme l'idolâtrie ou l'anthropomorphisme. La théorie internaliste, elle part du principe que les humains attribuent la source des comportements qu'ils observent chez autrui à une intériorité mentale. C'est parce que je présume que l'autre, avec qui j'interagis, possède un esprit, comme moi, donc des représentations, des idées, des croyances, des sentiments. C'est parce que je suis capable d'inférer cela que je suis capable d'interpréter la conduite de cet autrui. Tandis que la théorie externaliste part du principe, généralement wittgensteinien, que l'on attribue aux autres un esprit sur la base de l'intuition que leur comportement principalement linguistique, suit une règle que l'on peut reconstruire. Autrement dit, une image peut être vue comme ayant une agence, soit parce que dans certaines circonstances, elle paraît porteuse du même type d'intention que les sujets intentionnels qui sont réputés l'avoir faite, l'avoir utilisée ou l'avoir inspirée, soit parce que, en stipulant pour elle, pour cette image, un rôle social conçu par analogie avec celui que peut remplir un humain, cette image paraît jouir d'une indépendance d'action. Et parfois, les deux méthodes sont employées en complément l'une de l'autre. Par exemple, ces petites figurines sculptées d'animaux que l'on appelle ongon en Sibérie sont réputées servir d'intermédiaires auprès de l'esprit de la forêt pour favoriser la chasse. On leur prête donc une agence selon une stratégie mentaliste en prenant soin de rendre manifeste que cette agence prend sa source dans une intériorité invisible mais de même nature que celle des humains. Une sorte de personne, en somme, à l'intérieur de la personne que l'on va figurer par des conduits, des petites poupées, hein, les yeux, la bouche, qui donnent accès à cette intériorité. Mais on traite aussi les ongones selon une logique externaliste, c'est-à-dire comme des personnes obéissant à un code social. On leur manifeste de la considération, on les égaye par des propos plaisants, on les nourrit aussi régulièrement en disposant des morceaux de viande dans une cavité figurant la bouche ou dans des poches ménagées à cet effet sur le petit costume que ces figurines portent. Bref, on ne se contente pas d'imputer un esprit à ces figurines, on fait également comme si elles suivaient les règles de conduite attendues des humains. Le plus souvent toutefois, les deux démarches sont employées de façon alternative, en fonction du type de propriété ontologique que l'on va rendre visible dans une image. Et de fait, l'approche internaliste est plutôt caractéristique des collectifs animiques, tandis que l'approche externaliste est plus commune dans les collectifs analogistes. Et c'est ce que je voudrais maintenant examiner plus en détail. Voyons d'abord comment l'approche internaliste fonctionne en régime animique. Je rappelle que figurer dans une ontologie de ce type consiste pour l'essentiel à rendre visible l'intériorité des différentes sortes d'existants et à montrer que cette intériorité commune se loge dans des corps aux apparences fort diverses, lesquels doivent pouvoir être identifiés sans équivoque, par des indices d'espèce. Je vais reprendre comme illustration, parce que c'est la plus simple et la plus pédagogique, l'exemple des masques Yupik d'Alaska. Les sources ethnographiques signalent que ces masques étaient utilisés lors des rituels, je vous donne une image hein, que j'ai déjà présentée, je crois, étaient utilisés lors des rituels d'hiver où ils servaient à rendre présentes dans la grande maison commune des hommes les âmes des personnes animales, lesquelles âmes étaient fêtées pour qu'elles continuent de bon gré à livrer leur cœur aux chasseurs afin que les humains puissent s'en alimenter. Parmi la grande variété de masques, chacun illustrant un événement singulier, un mythe, le récit d'une relation particulière d'un individu singulier avec un esprit animal, deux grandes catégories étaient plus particulièrement distinguées. Les masques de chamans figurant leurs esprits auxiliaires et les masques d'esprits animaux que l'on accueillait dans la maison commune pour les honorer. Dans tous les cas, on note que l'intériorité de l'animal ce qu'on appelle en Yupik le Yua, est figuré soit par l'insertion d'un visage, comme c'est le cas ici, dans une tête animale sculptée avec ressemblance, soit plus rarement par l'ajout de membres humains à un corps animal, voire par une combinaison des deux. Donc quelques images, le phoque barbu avec l'intériorité à l'intérieur de la bouche, là, on l'avait déjà vu, je crois, c'est le grizzly, l'ours noir. Là, c'est un masque de plongeon dans lequel l'intériorité est figurée, là, plutôt par des membres humains. Et le visage, en fait, n'apparaît pas immédiatement, mais il est caché dans la tête de l'animal qui bascule. Pour ce qui est des masques de chaman, c'est l'esprit auxiliaire, Tundrak, qui est figuré sous la forme d'un corps animal portant ou dissimulant au moyen d'un mécanisme, un visage humanoïde monstrueux. Vous l'avez ici sur la gauche, avec les dents de prédateurs. Les masques étaient tous sauf statiques. Et de fait, la maison commune fonctionnait un peu comme un théâtre, où les Yupit c'est le pluriel Yupik, mettaient en scène le monde des esprits grâce à toutes sortes d'accessoires, dont les masques, fabriqués pour une seule occasion et portés par des danseurs qui racontaient des histoires, chantaient et imitaient aussi avec beaucoup de vraisemblance les messages sonores des animaux, cette combinaison contribuant à faire descendre le yua, l'intériorité des animaux dans la maison. Même si les masques étaient souvent d'un très grand réalisme, on en a vu quelques exemples à l'instant, c'est l'ensemble du dispositif scénique au sein duquel ils étaient insérés qui assurait l'iconicité de ces masques et donc leur agence présentifiante. En ce sens, les marques de l'intériorité figurées sur les masques étaient, on pourrait dire, presque superflues. Quel que soit les talents d'imitateur du porteur de masque, en effet, celui-ci révélait à tous son humanité par son corps, qui était jadis partiellement dénudé lors des danses, de sorte qu'il était évident pour tous les spectateurs que la présentification des animaux s'opérait à travers la médiation d'une intentionnalité humaine adoptant le point de vue de l'animal, c'est-à-dire incorporant de façon mimétique l'intentionnalité de l'animal sans être pour autant possédé par cette intentionnalité. Donc, de ce point de vue-là, les danseurs n'étaient aucunement aliénés par l'esprit de l'animal qu'ils représentaient au sens d'un fondé de pouvoir ou d'un mandataire. Ils gardaient, ces danseurs, la pleine maîtrise de leur intériorité et ils servaient d'une certaine façon seulement de filtre au point de vue animal grâce à l'agence objectivante du masque. Ajoutons que, comme c'est presque toujours le cas avec les masques en régime animique, ces masques n'étaient dotés d'agence que lors de la performance, lors du rituel. L'inférence mentaliste, elle se faisait donc au coup par coup, dans un contexte exceptionnel, contexte de rituel, où le masque agissait comme un déclencheur parmi d'autres d'une présence dont il incarnait la figuration. Que les images animiques soient le plus souvent agencées par une inférence mentaliste n'a rien d'étonnant, puisque l'imputation d'une intériorité conçue par analogie avec celle des humains est un trait caractéristique de l'animisme. Et si un tel mouvement est tout à fait plausible vis-à-vis de non-humains ayant une vie autonome, les animaux, les plantes, à qui l'on peut prêter, dans certaines circonstances, n'importe lequel d'entre nous peut le faire, des représentations, des désirs, et même peut-être des croyances semblables à celles des hommes. En revanche, l'agence imputée à des artefacts ne peut être que l'indice d'une intentionnalité déléguée. Et dans le cas de l'animisme, cette intentionnalité déléguée est le plus souvent celle d'un esprit, qu'il faut entendre ici dans le double sens d'esprit, c'est-à-dire d'une réalité subjective capable de représentation mentale et d'une entité non humaine hypostasiant cette réalité dans des avatars multiples, entre autres des images, dont on comprendra aisément qu'elle n'est pas, de ce point de vue, un statut particulier par rapport à d'autres types d'artefacts. Qu'en est-il maintenant des images analogistes ? Rappelons que l'identification analogique repose sur la reconnaissance d'une discontinuité générale des intériorités et des physicalités, aboutissant à un monde peuplé de singularités, un monde donc qui serait difficile à maîtriser en raison du foisonnement des différences qu'il compose, si l'on ne s'efforçait de trouver entre les existants, comme entre les parties dont ils sont faits, des réseaux de correspondance permettant un cheminement interprétatif. L'objectivation d'analogisme dans des images prend donc des formes diverses que j'ai passé il y a un moment en revue, la figuration d'êtres composites, la figuration du rapport entre macrocosme et microcosme, la figuration des réseaux, la figuration d'englobement et de la réplique à diverses échelles. Toutes ces formes aboutissent pourtant au même résultat. En effet, et dans la mesure où l'ontologie analogiste met l'accent sur la fragmentation des intériorités et sur leur répartition dans une multiplicité de supports physiques, sa traduction figurative consiste au premier chef à désubjectiver l'intériorité des humains et des non-humains de façon à ce qu'elle soit disséminée et couplée à une physicalité, elle aussi, distribuée. Autrement dit, il s'agit de donner à voir un ensemble de discontinuité faible et cohérente, soit directement dans un seul objet, dont la nature hybride devra être évidente, soit indirectement en indiquant que l'image est une partie métonymique du prototype, soit enfin en mettant en évidence que chaque indice n'a un sens et une agence que parce qu'il est inséré dans un agrégat d'indices de nature différente qui peut être structuré ou bien de façon spatiale, par alignement, par enveloppement concentrique, ou bien de façon temporelle, par simple rajout régulier d'un élément au tout. Bref, l'objectif figuratif de l'analogisme, c'est pour l'essentiel de rendre présents des réseaux de correspondance entre des éléments discontinus, ce qui suppose notamment de multiplier les composantes de l'image afin de mieux désindividualiser son sujet. Une excellente illustration de ce mécanisme, ce sont les autels des ancêtres des aires mandées et voltaïques en Afrique de l'Ouest. Ces autels sont disposés dans des maisons ou des sanctuaires et composés de sculptures de bois qui figurent des hommes ou des femmes adultes debout ou assis dans une pose en général hiératique, dépourvue de toute dimension narrative. Ce sont donc des images archétypales. Elles ne décrivent pas du tout une action, elles incorporent des archétypes. Ce sont des archétypes d'individus qui sont caractérisés par un stade de la vie, par un sexe aussi, bien sûr, et par un statut reconnaissable. Chez les lobbies, par exemple, dans une pièce qu'on appelle la chambre des puissances, le maître de maison installe l'effigie d'un ancêtre maternel, précisément identifié, dont il partage certaines qualités. Ainsi, une sculpture d'aïeul portant sur la tête une calebasse hérissée de dards de porc épic témoigne du statut de grand guérisseur que cet ancêtre partage avec son descendant. Ici, la calebasse. Durant sa vie, le propriétaire de la chambre des puissances va garnir ce lieu d'objets qui sont liés à son histoire personnelle, d'effigies d'ancêtres, de figurines exécutées à l'occasion d'un incident l'ayant affecté lui ou ayant affecté un membre de sa maisonnée, de sorte que la pièce, dans une semi-pénombre, comme vous pouvez le voir, apparaît comme une vaste fresque biographique où l'effigie de l'ancêtre tutélaire veille sur une congrégation de statues de bois et de terre auxquelles s'ajoute une masse confuse d'objets. Or, ces statues, qui sont désignées dans toutes les aires mandées et voltaïques par des termes dénotant l'ombre ou le reflet, sont à la fois le double de l'ancêtre et de son descendant qui lui rend un culte. Et pour que la configuration qui les lie, qui lie l'ancêtre et le descendant, s'active, elle doit s'incarner, cette configuration, dans une figuration reconnaissable par l'ancêtre, car élaborée dans un style identique par les sculpteurs qui travaillent pour le clan maternel. C'est un travail de professionnel. Et c'est seulement si les ancêtres se reconnaissent dans leurs effigies, qu'ils viennent habiter ces niches iconiques. Donc ces niches iconiques sont à la fois des singularités, le double de tel ou tel aïeul maternel incarnant le destin de son descendant, et des archétypes à l'image desquels les vivants doivent tenter de se conformer. Et c'est pour cette raison que les statues portent la marque des transformations rituelles subies par leurs descendants ou qu'ils seront amenés à connaître. Je ne sais pas si j'en ai quelques-unes, ou c'est à peu près la même chose ici. Par exemple, certaines effigies lobies d'ancêtres les représentent nues, c'est le cas des dernières, hein, et dépourvues de tout attribut, mais avec le crâne rasé. Et ceci se faisait pour les femmes notamment à l'occasion de la grossesse ou à l'occasion des funérailles du mari, et pour les hommes lors de l'initiation dans les cultes du dioro et du bourg. Et donc ces petites personnes de bois, c'est ce que le nom que les Bambara donnent à ces statues d'ancêtres, ces petites personnes de bois sont, vous le comprenez bien, fort différentes des masques yupik. Elles n'incorporent pas une intériorité non humaine, activée épisodiquement. Elles incarnent en permanence le réseau des relations sociales qui relie l'ancêtre à son descendant et à ses proches en mettant l'accent sur les positions qu'ils occupent les uns par rapport aux autres, en mettant l'accent sur leurs devoirs réciproques, en mettant l'accent sur les rites qui les réunissent. Pourtant, la statue n'est pas pour autant un symbole ou un emblème. Elle est bien, comme son nom l'indique, une petite personne, c'est-à-dire un artefact habité par un humain qui, un ancêtre, c'est-à-dire il n'est ni tout à fait mort, ni tout à fait vivant, et il est doté de ce fait d'une agence propre en dépit de son, c'est l'artefact, hein, en dépit de son immobilité apparente, mais une agence dont seuls les effets, que ces effets soient prophylactiques, vindicatifs ou réparateurs, dont seuls les effets sont perceptibles par ceux qui les subissent, et c'est le moyen donc d'avérer une présence par les résultats qu'elle produit. Et la meilleure façon de lui prêter cette disposition à l'image, c'est de la traiter dans une perspective externaliste, c'est-à-dire comme un agent éminent de la vie du collectif. Car non seulement cet agent, cette statue d'ancêtre, obéit aux règles sociales qui régissent le rapport des ancêtres aux vivants, mais il les valide, ces règles sociales, et d'une certaine façon, il les rend possibles. Peu importe dès lors l'inertie ostensible des statues d'ancêtres, puisque finalement, indice trônant dans une collection disparate d'autres indices, ils offrent à la vue, dans la semi-pénombre de la chambre des puissances, la trame des affinités qui donne à la vie collective son dynamisme et sa substance. C'est donc une façon très très différente de prêter une intentionnalité à des images. Bon, je vais m'arrêter là aujourd'hui et puis nous reprendrons la semaine prochaine.
Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.college-de-france.fr.